Beurre FM, au cœur des quartiers.
Aujourd'hui, dans le cœur des quartiers, nous partons à Vénissieux, dans la banlieue lyonnaise, à la rencontre de Basma. Basma est une jeune fille indépendante, accomplie, qui est aujourd'hui chargée d'affaires marketing et événementiel. Bonjour Basma.
Bonjour.
Ça va ?
Ça va, super, et toi ?
Oui. Alors, tu es née près de Lyon, donc à Vénissieux.
C'est ça.
Mais très jeune, tu es venue t'installer à Épinay-sur-Seine dans le 93. Mmh. Et aujourd'hui, tu as posé tes valises à Clichy. Tu habites à Clichy.
C'est ça.
Tu es très jolie, très féminine et surtout très accomplie. Tu es une personne qui n'a pas lâché l'affaire. Tu es ambitieuse et tu es surtout brillante. Et aujourd'hui, on va retracer ton histoire avec les auditeurs et auditrices de Beurre FM. Avant ça, quand même, on va mettre un peu de lumière dans ton enfance. J'ai envie de savoir qui était Basma et surtout à quoi ressemblait la petite Basma.
Alors la petite Basma, c'est la petite dernière d'une fratrie de 4 enfants. Grandie du coup à Lyon, comme tu l'as dit, en banlieue lyonnaise, auprès de ma famille paternelle, dans la joie. Ma maman a pris la décision de déménager et de monter sur Paris, donc en banlieue parisienne, toujours à Épinay, dans le 93, et pour quitter un certain environnement. On était dans un quartier qui à l'époque n'était pas fameux. Donc voilà, je pense qu'elle rêvait de plus grand, de plus brillant pour ses enfants. Mmh. Justement, ma maman, elle s'est démenée pour nous trouver une belle résidence. Mais honnêtement, où on habitait, c'était plutôt sympa, calme et déjà beaucoup mieux qu'à Lyon. Mmh. Beaucoup plus calme qu'à Lyon. Alors l'école, ça a toujours été hyper important pour mes parents. Il faut savoir que mes parents sont venus très jeunes. Donc ils ont fait des études. Mon père était mécanicien, ma maman infirmière. Ils sont nés au Maroc et ils sont venus très jeunes en France. C'était très important pour eux de nous suivre sans forcément que ça devienne une obsession, mais quand même.
Et à l'école, ça donnait quoi ? T'étais plutôt une bonne élève ou t'avais des matières où ça n'allait pas du tout, c'était compliqué ?
Alors à l'école, j'étais initialement une très bonne élève. Donc en primaire, toujours première de la classe, début de collège, pareil. Après, il y a ce qu'on appelle, je pense, la crise d'adolescence. Parce que chez nous aussi, ça existe.
Ah oui, oui. Ouais, non, mais c'est bien que tu dises chez nous, ça existe, parce que on entend un peu ce cliché facile chez les Maghrébins de « il n'y a pas de crise d'adolescence, il n'y a pas de crise de la quarantaine, mais on est des êtres humains comme tout le monde. »
Je vous le confirme, il y en a une.
Ça existe, ça existe. La crise identitaire, elle arrive quand on passe de l'enfance à l'âge adulte. Cette période de l'adolescence, ça peut être la pire période de ta vie, comme parfois aussi la meilleure. Mmh. Et oui, on passe tous par là, donc raconte-nous cette crise d'adolescence.
J'étais toujours très attachée à l'école, studieuse, mais voilà, à partir de, on va dire, la 5e, 4e, j'ai commencé à pas mal faire l'école buissonnière pour me retrouver avec mes petits copains-copines devant le collège. Donc c'était assez drôle, je sortais très tôt le matin, mm-hmm. mais je ne rentrais pas dans le collège. Voilà, on préférait
traîner dehors.
Voilà, c'est ça.
Qu'aller à l'école.
C'est ça. Après, j'avais pas mal de facilités et je me suis beaucoup reposée justement sur ces facilités. Mes profs devenaient complètement dingues parce que ça leur arrivait des fois de ne pas me voir en cours pendant 2-3 jours et j'arrivais juste le jour du contrôle et je m'en sortais avec un 17. Ils comprenaient pas trop comment, mais voilà. J'ai partagé ma chambre avec ma plus grande sœur. On a 9 ans de différence et je la voyais du coup, elle, qui était très studieuse. Elle n'a pas connu de crise d'adolescence, je pense. Qui révisait, donc on était dans la même chambre, je la voyais réviser jusque pas d'heure pour son bac, sa licence, son master. Donc j'avais quand même cette conscience-là et ce point d'accroche en fait pour me dire ok, tu déconnes, mais les études c'est pas un jeu non plus. Et puis je la voyais elle faire ses études et moi aussi je voulais être comme elle quoi, réussir, rendre fiers mes parents. Donc j'avais toujours cette conscience.
Donc rendre fiers tes parents, c'était très important pour toi?
C'était très important, ça l'est toujours. Bien sûr, bien sûr. Et ça passe par l'école, pas que. En tout cas, à ce moment-là, oui, c'était par l'école.
Aujourd'hui, tu es chargée d'affaires marketing événementiel, je me permets de le rappeler. Est-ce que bosser dans le marketing et dans l'event, ça a toujours été un but pour toi?
Alors, je me suis beaucoup cherchée. Je suis réorientée une fois que j'ai obtenu mon baccalauréat littéraire. Parce que je ne l'ai pas dit précédemment, mais moi, j'ai un profil très littéraire. C'est-à-dire que j'avais de très bonnes notes, histoire, géo, littérature. Par contre, en maths, SVT, physique, fallait pas compter sur moi. Voilà, donc c'était une évidence pour moi et pour le corps enseignant en fait de m'orienter vers un baccalauréat littéraire. Donc une fois que je l'ai obtenu, au bout de la deuxième fois, mm-hmm. Important de le dire aussi parce que c'est pas un échec non plus. Je pense que avoir raté mon bac, ça m'a remis un petit coup de boost, justement.
Mais je me permets justement de te couper parce qu'on est dans cette période où les étudiants sont en train de passer leur baccalauréat et c'est très bien que tu dis ça.
Bon courage à tout le monde.
Courage à tout le monde. On vous met une pression monstre pour le bac. On vous souhaite de tout notre cœur de le réussir parce que c'est vraiment le passeport pour le début de la vie active. Donc merci. L'université, la fac, les BTS, tout ça. Et en même temps aussi, vous pourrez travailler, gagner votre propre argent et c'est un peu le meilleur moment. Mais encore une fois, et je parle à tous les parents qui nous écoutent ce matin, si vos enfants ont le malheur de rater le baccalauréat, ne leur mettez pas une pression, ne les dénigrez pas, parce que c'est peut-être l'ouverture d'une nouvelle porte, ou peut-être que c'est juste reculer pour mieux sauter. Voilà, je voulais le dire, tu es la preuve vivante qu'on peut très bien réussir sa vie dans plusieurs domaines, même si on a raté son baccalauréat
totalement,
une fois.
Totalement, totalement. Ouais. Non, mais c'est très important, merci de le repréciser. Donc j'ai eu mon bac au bout de la deuxième année et puis j'en avais un peu ras la casquette des études et de l'enseignement. J'ai toujours eu un petit souci avec l'autorité, on va dire. Une fois mon bac en poche, je voulais plus entendre parler d'études. J'ai tenté quelques mois à la fac de droit, c'était un peu la seule fac qui m'avait accepté. J'ai pas tenu, je suis partie travailler à l'aéroport, j'étais hôtesse d'escale. Et à la fin de mon deuxième contrat d'intérim, ils m'ont proposé un CDI. C'est à ce moment-là que j'ai réfléchi et je me suis dit, un CDI, c'est quand même un engagement, est-ce que je veux faire ça? Et je me suis rendu compte que non, en fait, je voulais reprendre mes études et viser plus haut. Et mon petit rêve, c'était d'être à ta place, d'être journaliste.
Ah, ok.
Ouais, ouais. Donc j'ai repris mes études initialement, j'ai passé des concours pour aller en école privée de journalisme. J'ai été sélectionnée, donc j'ai été retenue. Puis fallait payer l'école. À l'époque, l'alternance n'était pas autant répandue. Maintenant, en tout cas, cette école ne proposait pas de licence en alternance. C'était, si mes souvenirs sont bons, 7 ou 8 000 euros l'année. Assez conséquent comme budget. Moi, j'avais pas ça de côté, clairement pas. Mes parents, il était hors de question que je leur demande de verser 1 euro pour moi. Enfin, ils avaient pas forcément non plus 8 000 euros par an à mettre pour leur enfant. Pareil, c'était inconcevable pour moi de contracter un prêt étudiant. Je voulais pas démarrer ma vie avec une dette. Donc j'en ai parlé à la directrice de l'école. Elle m'a dit... écoute, ce qui se rapproche le plus en termes de formation théorique du journaliste, en tout cas de notre formation, c'est la communication. Donc pourquoi pas faire un BTS communication en alternance en 2 ans, ce qui te permettra de mettre de l'argent de côté. Puis moi, je te reprends en 3e année pour valider ta licence de journaliste. Donc c'est ce que j'ai fait. Parti en BTS communication et à la fin de mon BTS que j'ai obtenu du premier coup.
Ouh, bravo.
je me suis rendu compte que finalement, la communication, ça me plaisait et que je voulais plus forcément faire de journalisme. Donc j'ai continué ma licence en communication, donc là je me suis un peu plus spécialisée et j'ai enchaîné directement avec un master en management des stratégies marketing et événementiel. C'est comme ça en fait que je me suis retrouvée dans le marketing, la communication et l'événementiel.
Plusieurs choses quand je t'entends parler, déjà encore une fois tu abordes un très très bon sujet, c'est le sujet du prêt bancaire. Donc moi personnellement par exemple j'ai dû faire un prêt, j'ai pris le risque de le faire pour pouvoir faire une école. Et c'est un excellent sujet que tu abordes parce que j'ai l'impression que beaucoup d'entre nous, mes personnes issues de banlieue, d'origine maghrébine, qui avons des parents aux revenus moyens, on n'a pas forcément cette chance que d'autres personnes ont d'avoir des parents qui peuvent assurer une école. Le rapport aux chances, déjà, il est différent. Et ça, c'est un vrai sujet parce que l'école, certaines écoles coûtent vachement cher et ça empêche plusieurs personnes, comme nous, comme toi, comme moi, etc., d'aller dans les écoles qui nous plaisent, d'aller vers les écoles qui nous plaisent. Et ça, c'est assez triste. C'est vrai que je trouve ça assez triste. Et c'est bien parce que là, aujourd'hui, les personnes qui nous écoutent ce matin peuvent entendre que toi, tu as décidé de ne pas faire, de prêt bancaire, de ne pas prendre ce risque parce que tu ne voulais pas commencer ta vie avec un prêt. Donc, tu as fait de la communication et tu t'es dit plus tard, je reviendrai vers le journalisme. Donc, tu as essayé de trouver quelque chose. Et au final, tu es tombée amoureuse de la communication. Donc, tant mieux. Et moi, en fait, j'ai pris le risque de faire un prêt bancaire que je rembourse aujourd'hui. Et Dieu merci, je travaille, donc j'arrive à le rembourser sans forcément me retrouver ruinée à la fin du mois. Mais c'est vrai que c'est important quand même de le dire aujourd'hui qu'il y a des risques lorsqu'on fait ça. Mais si la passion est très forte, si vous êtes sûr à 14 000% que c'est ce que vous voulez faire, je m'adresse aux jeunes qui nous écoutent, prenez ce risque-là quand même. Voilà. Après vous faites ce que vous voulez, c'est votre argent, mais c'est vos risques. Mais voilà, quand t'es sur une détermination monstre, faut prendre des risques, etc. Et toi au final, t'en as pris un quand même, puisque t'es partie vers la communication, t'as pris le risque peut-être de ne pas aimer pendant 2 ans ce que tu allais faire, et au final t'es tombée amoureuse de la com. Je peux te demander juste du coup comment la communication est devenue au fur et à mesure quelque chose qui te plaisait vraiment.
On avait de très très bons enseignants qui nous ont retransmis leur passion, et forcément quand t'as quelqu'un qui de passionné en face de toi, bah, il arrive à t'influencer. Et je retrouvais pas mal de points justement qui me plaisaient dans le journalisme. Dans la communication, c'était vraiment très rapproché.
C'est
en
très
tout cas
rapproché.
Pour les 2 premières années. Donc voilà, je me suis dit au final, oui, why not? Et voilà, mettre en lumière une image de marque, une entreprise, ça c'est des choses qui me plaisent, jouer avec les mots, beaucoup de neurosciences, j'ai trouvé ça passionnant. Voilà, la communication non-verbale, verbale, enfin j'ai adoré.
La communication c'est tellement vague, tu vas vers le marketing, mais tu peux aller vers la politique, comme tu peux aller aussi vers le journalisme, vers les médias, moi je fais de l'animation aujourd'hui, et les études de communication c'est vraiment l'avenir au final.
Bah totalement, surtout de nos jours, enfin tout repose sur la communication, qu'elle soit digitale ou pas. C'est un peu le pilier de la réussite d'une marque, tout part de là.
Et après ces études-là, est-ce que ça a été simple de trouver un travail?
Alors là, vraiment, Dieu m'a facilité. Alhamdoulilah. C'était compliqué, mon alternance. Les 2 premières années, c'était nickel, bon, super. Je me plaisais dans mon boulot avec mes collègues. La 3e année, ça a été très, très compliqué en termes de relationnel, parce que voilà, la direction a changé, leur vision n'était pas en accord avec mes valeurs. J'ai malheureusement été victime à plusieurs reprises de discrimination. Et je tiens à souligner, avant d'aller sur ce sujet-là, que moi, je suis vraiment contre les discours de victimisation. Enfin, pour moi, on a tous les mêmes chances. On reste focus sur ses objectifs. Ça m'a fait changer justement d'avis l'expérience que j'ai vécue.
Tu précises que peu importe ton origine, ta culture, ta religion, on peut réussir et on peut être tous logés à la même enseigne. C'est bien que tu aies ce discours-là, mais malheureusement, même une fille comme toi qui refuse les discours victimisants, etc., se retrouve dans une situation où tes origines, qui ne font absolument pas partie de ton bagage professionnel, de tes compétences, ça a été un sujet du coup.
Ah ouais, totalement, totalement. Et un gros, gros sujet qui m'a impacté profondément, même au niveau de ma santé. Ça m'a valu de vouloir en fait tout quitter. Parce que à la fin de mon contrat d'apprentissage et à la fin de mes études, donc une fois mon master obtenu, je voulais plus rien savoir de la France.
Ah oui, c'est...
Ah ouais. C'est-à-dire que j'ai pris mes bagages, une grosse, grosse valise, et que je suis partie d'abord 1 mois en Espagne pour décompresser, puis au Maroc, plusieurs semaines, plusieurs mois, à la recherche d'un emploi, d'une opportunité là-bas. Là, mes parents ont un appartement, donc je me suis dit, bon bah déjà, question logement, ça va, je suis facilitée à ce niveau-là. Voilà, je vais trouver un job qui me plaît, et puis au moins là-bas, je serai pas victime de discrimination.
On fuit finalement tellement on est traumatisé. C'est des traumatismes, la discrimination, c'est une forme, c'est une forme de traumatisme. Ça crée un traumatisme chez la personne, et c'est bien de le mentionner. Et du coup, quand t'es allée au Maroc, raconte-nous ce qui s'est passé.
Bah d'abord, j'ai kiffé ma life. Ah, j'ai fait le tour du Maroc, c'était génial. Je suis rentrée initialement uniquement pour assister à 2 mariages de 2 amis à moi. Je reçois j'ai reçu plusieurs propositions d'emploi que je ne traitais pas, clairement. Un soir, je dînais avec ma maman et elle me parle de qu'est-ce que tu comptes faire? Tu retournes au Maroc, tu travailles, à savoir que ma maman, c'est une personne très déterminée. Enfin, elle s'est battue pour ses enfants. Elle m'a mis un petit coup de pression. Bon, ok, c'est quoi la suite, quoi? Je te suis, mais c'est quoi? Parce que moi-même, je ne savais pas à ce moment-là. Oui, je vais passer un entretien, ok. Enfin, c'était plus pour lui dire, non, mais regarde, je fais pas rien, je vais passer un entretien. J'y vais vraiment sans pression, parce que je voulais pas forcément être prise à ce moment-là. Voilà, c'était un entretien, histoire de dire à ma mère, j'ai passé un entretien. Ah bah, ils m'ont pas retenu, c'est ballot. Voilà. Et au final, ça s'est hyper bien passé. Comme quoi, des fois, faut pas se mettre la pression. Ils m'ont proposé une prise de poste 2 semaines après. J'avais encore la moitié de mes affaires au Maroc. Et finalement, j'ai commencé j'ai fait ma prise de poste dans mon emploi actuel. Et ils m'ont réconcilié avec le monde du travail en France, quoi. J'ai jamais été autant épanouie qu'à l'heure actuelle. Vraiment, c'est autant dans le relationnel que dans les tâches, les missions, mon job que je fais tous les jours. Enfin, je suis contente d'aller au travail, de me réveiller tous les matins et d'aller au bureau.
Mais t'es fière aujourd'hui de voir qu'il n'y a pas si longtemps que ça, toi Basma qui a été victime de discrimination, qui ne savait pas où aller, qui était entre la France, le Maroc, l'Espagne, t'es fière aujourd'hui de voir que tu es une femme accomplie?
Bien sûr que je suis contente, ça fait du bien et je me dis que la vie c'est ouf quand même, parce qu'il y a 3 ans de ça, j'aurais jamais imaginé tout ce qui m'arrive actuellement, dans mon cadre professionnel, tout ce que j'ai pu faire, toutes les opportunités que j'ai eues. C'est génial, et puis je suis toute jeune encore, c'est pas fini. J'espère qu'il y aura encore de plus belles choses, de plus grandes choses par la suite.
Dans Au cœur des quartiers, on a une petite séquence qui s'appelle Les yeux dans les yeux, où je vais te poser 3 questions. Et il faut que tu me répondes vraiment avec le cœur. Bon, après j'ai l'impression que t'es assez spontanée depuis le début, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est 3 petites questions et tu me dis vraiment la première personne ou la première chose qui te passe par la tête. T'es prête? Il y en a 3.
Allez.
Quelle est la phrase qui t'a extrêmement marqué?
C'est une phrase qu'un professeur m'avait dit en 6e. Il m'a dit, en faisant l'appel le premier jour à la rentrée, quand il a vu mon nom de famille, et il m'a dit, oh, ah ouais, encore une. Et là, il a dit mon nom de famille. Ah, mais de toute manière, vous irez nulle part, vous.
Parce que ton nom de famille est ta consonance maghrébine, ou parce que tu es la sœur de tes grands frères?
Parce que je suis la sœur. Parce que je suis la sœur de... Il avait eu avant moi mon grand frère et ma grande sœur, qui n'étaient pas forcément hyper studieux, on va dire. Et qui avait eu quelques difficultés, quelques lacunes à l'école. Et moi, il m'a vu arriver derrière et il s'est dit, ah, purée, encore une...
Ok.
Voilà. Et ça m'a marqué. Je suis rentrée en pleurs chez moi. Et quand j'en ai parlé à mes parents, mon père s'est mis dans tous ses états. Et puis il est parti voir ce professeur pour lui demander des comptes.
Et son papa, il a réagi comment?
Mon papa, il a réagi. Enfin, tu insultes mon nom de famille, c'est mon identité, c'est mon papa. Ça l'a ramené à son père, qui venait de perdre quelques années auparavant, et ça l'a marqué.
C'est une insulte, clairement.
Voilà, monsieur, un tel. Tu sais ce qu'il a fait pour la France? Tu sais ce qu'il a fait pour toi? Parce que mon grand-père, paix à son âme, était militaire dans l'armée française.
Qu'un professeur dans l'éducation nationale se permette de dire de telles choses. Et surtout, c'est bien, tu marques beaucoup de points, parce que tu abordes des sujets très très importants. Et je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Ça arrive souvent, ce genre de choses. Tu sais que tu as plein d'élèves, quand on est au collège ou au lycée, moi aussi, parce que j'ai des grands frères et sœurs, qui disent, ah, t'es la sœur de un tel, ah bah j'espère que tu vas faire mieux.
C'est ça.
Là là, mon Dieu, purée, votre famille, je peux plus. Mais
exactement.
En fait, ces professeurs-là, faut qu'ils prennent conscience que déjà, on est tous différents. Donc, tu peux avoir une sœur ou un frère qui était très bavard, très virulent ou très studieux, et toi, tu vas être totalement l'inverse. Donc, partir déjà avec des clichés, des stéréotypes sous prétexte que vous portez le même nom de famille, ça déjà, normalement, ça devrait être rié. Pas avoir une réaction excessive sous prétexte que cet élève... était bavard ou était pas studieux ou séchait les cours, etc. Tu peux pas, on va dire, taper sur le petit frère ou la petite sœur qui vient derrière. Et ça arrive souvent. Et la preuve, toi, ça t'a blessé parce que t'es rentrée en pleurs chez toi. Qui est cette personne qui a toujours été là?
En dehors de mes parents, de ma famille, on va dire. Sinon, c'est trop...
C'est trop facile. Bon, ouais. Déjà, j'imagine ton père, ta mère,
oui,
tes frères et sœurs.
Honnêtement, ma famille, En dehors de ma famille, je dirais ma sœur de cœur que j'ai rencontrée au cours de nos études supérieures et qui a toujours été là, qui a été témoin de justement la phase un peu
discriminante
durant mon alternance. Elle a toujours été là, elle m'a soutenue, elle m'a réconfortée, on a fait les 400 coups ensemble. Donc Fédia, si tu m'entends, bisous. Elle est très elle a la tête sur les épaules, Fédia. C'est-à-dire que moi, je suis, comme tu l'as dit, je suis très spontanée. Mmh. Elle sait prendre du recul, prendre de la hauteur sur la situation, et elle est très pragmatique. Elle est autoritaire aussi. Quand je fais n'importe quoi, elle n'hésite pas à me le dire et à me remettre en place.
Qui est la personne qui t'inspire le plus?
Ma maman, qui s'est battue toute sa vie, qui n'a pas eu une enfance très facile, elle est orpheline, donc elle a dû se construire toute seule, même si elle avait ses grandes sœurs, son grand frère, mais c'est compliqué. Elle a jamais lâché, quoi. Elle s'est battue contre vents et marées pour arriver là où elle voulait, donc c'est inspirant, et je me dis que... c'est un très bon exemple que je devrais prendre. Honnêtement, elle est très déterminée.
Elle est infirmière. Elle est infirmière.
Elle était infirmière. Mmh. Avec des problèmes par rapport à ses problèmes de santé, elle a dû arrêter il y a plusieurs années. Justement, elle s'est reconvertie. C'est pour ça qu'elle a repris des études dans le commerce.
Ah,
ouais,
wow.
Par la suite. Ouais. Puis après, elle a travaillé dans l'administration, mais elle a jamais lâché. Et puis même là, elle a eu quelques soucis de santé. Mmh. Et je vois à quel point elle a la niaque. Elle a repris ses études, j'étais au collège, Et bah, nous, on allait en cours et elle allait en cours elle aussi. Elle a fait une formation d'un an pour avoir une certification et pouvoir justement, parce qu'elle pouvait plus travailler en tant qu'infirmière, mais elle soyait pas ne rien faire ou faire un emploi. Avoir un emploi alimentaire, quoi.
Qu'est-ce que t'aimerais dire, toi, à un jeune qui nous écoute ce matin, qui peut-être, comme toi, a été victime, peut-être par moment de discrimination, alors que pour le coup, voilà, il revendique pas haut et fort ses origines, ni sa religion, il vient juste travailler, il a fait des études pour, il s'est battu, il a fait des sacrifices, peut-être, ce jeune qui nous écoute ce matin, et qui se retrouve dans une entreprise où, justement, il est victime de discrimination, et il a envie de tout lâcher, de fuir, de partir, de tout abandonner. Qu'est-ce que toi, t'aimerais dire à cette personne aujourd'hui ?
Alors, je lui dirais de rester focus. Parce que moi, ce qui m'a aidé en fait à tenir, c'est que j'étais focus sur mon master que je devais valider. Donc, de rester focus, de ne pas leur donner raison, de ne pas les satisfaire en fait en explosant, parce que quelquefois, ça peut être compliqué. Et par contre, de s'écouter. Si tu sens que c'est trop pour toi, c'est pas. Enfin, faut être déterminé, mais pas au détriment de sa santé physique et mentale, quoi. Mmh. Donc, si tu sens que vraiment t'as plus de force et que pars, et tu verras que quand une petite porte se ferme, c'est qu'il y en a une beaucoup beaucoup plus grande et plus belle derrière. Donc voilà, reste déterminé, ne baisse pas les bras.
Merci
et
beaucoup.
Bon courage.
Et courage, oui, ben la vie de toute façon, ouais. c'est un combat et la vie elle nous teste tout le temps de toute façon. Et il faut s'armer de patience, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut s'armer de patience parce que je pense que tu es la preuve, je suis la preuve et beaucoup de personnes que j'ai reçues dans Au cœur des quartiers sont les preuves vivantes que parfois, ben, quand une porte se ferme, ce que tu viens de dire, ben, plus tard, au bout d'un mois, 6 mois, 1 an, 10 ans, ben, y en a une autre plus grande qui s'ouvre. Et si vous n'aviez pas eu cet échec juste avant, vous n'auriez pas pu voir les beautés qui vous attendent juste après.
Et il y a une phrase que j'aime bien.
Une autre phrase. Vas-y.
Il faut goûter au vinaigre pour apprécier le goût du miel.
Ah, c'est très beau. Et ben, je pense qu'on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Basma.
Merci à toi de m'avoir reçu.
C'était Au cœur des quartiers, avec le soutien du ministère chargé de la ville.